Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Puis, il y a beaucoup d'affaires qui avaient été prophétiser sur Jésus, puis quand il faut fouiller là-dedans, ça me fait comprendre pas mal d'affaires. Comme c'était prophétisé que Jésus serait rejeté par les siens. Là, j'ai lu, il y a plein de passages dans la Bible là, qui parlent de plein d'affaires, là, mais là, moi, je m'en vais vous lire. Dans le chapitre 7, Jean 7. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui dirent, ah, les enfants? OK. On va prier pour les enfants? OK. Ah, ben, Seigneur, merci pour les enfants qui sont ici ce matin. Merci pour les parents qui les amènent, qui s'occupent d'eux autres, qui les éduquent dans la foi. C'est important que ça soit fait. Puis je te prie pour l'éducation chrétienne, qui apprennent plein de nouvelles affaires intéressantes. Amen. Bon, fait que ça dit, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Puis au verset 5, ça dit, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Là, moi, ça me faisait penser. Jésus, il était rejeté par ses propres frères, là, puis de la manière que c'est écrit, je pense que c'est vraiment ses frères, là. Ses frères dans le sang, comme on dit. Ses vrais frères. Probablement même que peut-être qu'une couple de ses sœurs qui sont mêlées de ça aussi, qui ont dit, ils ne croyaient pas en lui. Puis ça me faisait penser, quand on lit les évangiles, qu'on regarde aller Jésus. Jésus, là, il était un peu comme nous autres. C'est quelqu'un qui avait son caractère, son mode de pensée. Il avait son tempérament à lui. Sauf que lui, c'était sans péché, c'est sûr, là, contrairement à nous autres. Puis c'est ce côté-là aussi qui a été rejeté de Jésus par son peuple, les Juifs aussi. Là. Parce que Jésus, dans son tempérament, là, lui, quand il parlait à quelqu'un puis qu'il avait de quoi dire, il disait, quand c'était un pauvre qui était pécheur puis qu'il faisait de quoi de pas correct, comme les collecteurs d'impôts, mettons. Ben eux autres, ils étaient riches, là, en tout cas. Mettons qu'il y avait un pauvre, en tout cas quelque chose de même, il se le faisait dire, mais quand c'était un riche, puis c'était un docteur de la loi qui était supposé tout savoir, il se le faisait dire lui avec. Il se faisait parler lui avec. La même affaire que l'autre. Parce que lui, il considérait pas un plus haut que l'autre. Ça, c'était dans son tempérament. Fait que ouais, c'est sûr que je pourrais parler de bien grosses affaires, là, mais juste pour conclure, là, parce que je ne veux pas trop étirer, là, ça se peut-tu que moi, Benoît Doucette, j'ai tendance à rejeter un peu un côté de Jésus parce que ça fait pas mon affaire, parce que lui, il me voit agir et il dit non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Est-ce que ça pourrait arriver? Ça peut arriver en masse. Puis je pense que ça peut nous arriver à tous ici. Fait que c'est ça que je voulais vous amener un matin. Puis je vous souhaite un très bon message avec Jackie. Amen.
Wow. Bon matin, tout le monde. Je pense que c'est à mon tour.
Oui, bon matin, Jackie. Okay. Jackie, même si on a pris plus de temps là dans les annonces ce matin là, parce qu'on avait besoin comme de se mettre à la page pour le ménage puis tout ça, tu prends quand même ton 45 minutes pour enseigner.
D'accord. Good.
Excellent. Je te souhaite un bon enseignement puis on s'assit et on écoute.
D'accord. Bon, ben dans la même lignée de Gilles ce matin, je vous remercie de vos dons à l'Église qui me soutiennent, c'est très apprécié. Et bon, on a parlé de l'entretien de la bâtisse, puis c'est vrai, on est des petits groupes maintenant. Je m'occupe de l'offrande à mon Église, puis on reçoit beaucoup moins que d'habitude, mais c'est Dieu qui est fidèle, c'est Dieu qui nous met à cœur de soutenir son œuvre. Donc moi, je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien, qui va me permettre aussi de vous élaborer le sujet dont je vais parler ce matin. Je sais que j'ai mis l'eau à la bouche à certaines personnes pour lire le livre sur les traces du Messie dont je fais encore la publicité ce matin, parce que quand je regarde ce que j'ai enseigné la dernière fois, ça couvre 150 pages écrites assez petit dans le livre. Et puis ce matin, je vais vous parler de l'intervalle qui prend une vingtaine de pages, et puis aussi du royaume messianique qui couvre une centaine de pages. Donc je vais élaborer le sujet à mercredi. Je vous invite tous à écouter l'enseignement qui va être plus long, et aussi le 16 décembre aussi, si je peux faire une petite pause publicitaire pour le mercredi dans un mois. Donc, je sais qu'il y a eu de l'intérêt pour une commande de groupe pour $25, un livre imprimé de 800 pages là, ça vaut la peine. Donc, ce matin, on va regarder deux aspects de l'avenir. Il va y avoir une intervalle entre la 70e semaine de Daniel, la tribulation qu'on a vue la dernière fois, et le royaume messianique. Donc, on sait que le millénium commence pas tout de suite après la tribulation. Donc, on va voir un diapo qui nous montre un peu la suite, la suivi des événements. Donc, on voit complètement à gauche la première venue de Jésus. Et puis, quand le Saint-Esprit est venu, ça a commencé l'ère de l'Église, le rectangle à droite, et l'enlèvement, peut-être c'est ce matin. Donc, ça, c'est n'importe quand, c'est imminent. Et parce qu'on ne sait pas qui va signer l'entente de paix avec Israël, c'est-à-dire l'Antichrist, il y a une petite espace où vous voyez la flèche présentement, entre l'enlèvement et le rectangle rouge de la tribulation. Donc, il va y avoir un espace qui sait combien de temps. Et puis, bon, le rectangle rouge, le jour de l'Éternel, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est la 70e semaine de Daniel, la grande tribulation, qui est précisément 84 mois ou 7 ans vraiment pile dans le calendrier juif. Et ça termine par la repentance nationale d'Israël qui mène à leur salut national. Et ils vont faire appel au Père d'envoyer Jésus, leur Messie, et vous voyez la flèche jaune, et donc la tribulation prend fin avec la venue de Jésus. Mais maintenant, vous voyez une autre espace entre ça et puis l'événement qui suit. Il y a un intervalle, et il y en a qui disent que c'est 30 plus 40 qui divise ça autrement, mais si tu les mets ensemble, ça fait 75 jours. Mais il y a des événements qui doivent arriver pendant cet intervalle de temps avant que le royaume messianique puisse commencer. Donc, on va commencer la première moitié de l'enseignement en parlant de cet intervalle et les événements pas conséquentiels, mais par thème, ce qui doit arriver pendant cette période. Et puis ensuite, il y a une période de 1000 ans Donc, le millénium, on l'a su en Apocalypse 20, mais l'ère messianique ou le royaume messianique, moi, j'ai cru en ça quand j'étais toute petite fille. Donc, ça, les Juifs qui sont croyants, au moins, qui sont pratiquants, ils croient. Quand ils prient tous les jours, ils parlent de notre ère et de l'ère à venir. Donc, c'est cette période-là du royaume messianique. Et puis, à la fin cette période, on va voir comment ça va prendre fin. On va voir qu'il y a une rébellion à la toute fin. Et il va y avoir certains événements, un jugement. Et ensuite, il y a l'éternité devant nous. Donc, ça, évidemment, la flèche peut continuer éternellement. Donc, il faut surtout garder en tête que le millénium commence pas tout de suite après la tribulation. Il va y avoir des choses miraculeuses qui vont se passer pendant cet intervalle de 75 jours, mais dans le fond, il y a un jugement qui doit arriver des non-juifs. Il doit avoir une sorte de nettoyage, pas tout à fait comme Sylvain a parlé ce matin, de désinfecter, mais dans un autre sens, oui. Et puis, on va voir. Mais il y a une écriture qui nous montre qu'il y a cet intervalle, que cet intervalle existe, et on va revoir en Daniel 12, qui est un chapitre fort futuriste, si vous voulez. Et puis, on voit dans le verset 11 et 12, ça dit, « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, on l'appelle aussi l'abomination de désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à combien? Ah, 45 ans de plus, 1335. Donc, c'est clair que 1260, c'est la moitié de la tribulation. Donc, on voit que si 1200, je suis pas bonne dans les maths, mais ça, je suis capable de suivre. Donc, essayez de suivre avec moi. 260, juste pour enlever le 1000, mettons, pour arriver à 290, bon, il y a 30 jours de plus, 90 moins 60, OK, pour simplifier. Il y a 30 jours après, et puis pour arriver à 1335, c'est 45 jours. Donc, j'ai fait la soustraction en bas de la page. Donc, vous voyez que en ajoutant les 45 plus les 30, ça fait 75. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui enseignent ça un peu différemment, cette division dans le temps, mais tout le monde accepte que la tribulation est 7 ans, puis il va y avoir en total 75 jours de plus. Donc, quand ça dit à la deuxième au deuxième verset, « Heureux, celui qui attendra, c'est celui qui est arrivé jusqu'au bout », ça veut dire qu'ils vont avoir survécu au jugement qu'on va voir plus tôt ce matin à Matthieu 25. Donc, on va commencer avec une liste d'événements parce que c'est pas chronologique les événements pendant cet intervalle de 30 jours ou 75 jours là, ou 45 ou 75, la façon que vous voyez, mais il y a certainement des choses qui doivent se passer. La première chose, c'est que, bon, le troisième temple messianique aura été érigé et puis on voit qu'il va falloir enlever l'abomination du dévastateur, qui veut dire l'abomination de désolation. Et puis, bon, il y a un verset qui apparaît pas encore, mais donc on sait que au milieu de la tribulation, l'Antéchrist proclame qu'il est Dieu. Et puis, quand il proclame qu'il est Dieu, mais il veut être adoré. Donc, il va ériger un statue de lui-même dans ce troisième temple qui n'est pas encore construit et on l'appelle l'abomination de désolation ou l'abomination du dévastateur. C'est le diapo avant. Et puis, il va falloir, oui, c'est le verset qui, oui, oh, qui va avec ça. Donc, cette statue-là va devoir être enlevée. Mais on voit qu'on le laisse pendant 30 jours après la tribulation. Et ça, c'est le 1290. Et puis, bon, dans le verset qui apparaît pas. En tout cas, vous aurez vu cette période-là. Mais c'est encore en Daniel 12. Donc, pourquoi est-ce que Dieu permet que cette abomination dure 30 jours de plus après la fin de la tribulation? Mais on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Les choses secrètes appartiennent à Dieu. On ne peut pas le dire, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ce troisième temple qui reconnaît pas Jésus comme le Messie ou le sacrifice final doit être détruit. Et ça comprend cette statue-là. Et il y a un quatrième temple qui va être construit, qui va être bâti par, il y en a qui disent Dieu uniquement, d'autres disent avec les hommes qui vont aider, qui est absolument énorme, des dimensions comme on n'aura jamais vu. Si vous voyez chapitre 40 d'Ézéchiel jusqu'à la fin de Ézéchiel, vous allez voir, c'est une place absolument énorme. On va le voir un peu dans les mercredis à venir. Donc ça, c'est la première chose qui doit se passer pendant cet intervalle. Ensuite, il y a le jugement final de l'Antéchrist. Et on voit ce qui est écrit en Apocalypse 19, verset 20, ici. Et on va voir que le faux prophète, sa fin aussi, et on parle de ça dans Apocalypse 19, ça dit « Et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète, ça va être un juif en passant, qui avait fait devant elle, pas l'Antéchrist, mais le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, l'image dont on vient de parler. Ils furent tous les deux jetés vivants, parce que l'Antéchrist meurt, mais il est ressuscité, dans l'étang ardent de feu ou le lac de feu et de soufre. Donc, on voit ailleurs, si vous voulez regarder vous-même, Ésaïe 14, 20, on voit que le corps de l'Antéchrist sera jamais enterré, parce que le corps de l'Antéchrist, c'est l'Antéchrist dans le fond, est jeté vivant au lac de feu. Et on vient de voir, bon, le faux prophète ici, là, et qui est comme le contrefait du Saint-Esprit, il va avoir des pouvoirs qui va lui permettre de faire des miracles et de tromper le monde. Et il va encourager les gens à adorer l'Antéchrist et à cette abomination dont je viens de parler. Et puis, ceux qui vont adorer l'Antéchrist, c'est juste eux qui reçoivent la marque. Tu sais, les chrétiens, on n'est pas dans le décor, là. On est parti depuis longtemps dans l'enlèvement. Donc, oublie la crainte de recevoir la marque par accident ou par une injection ou par un tatouage ou je sais pas. Oublie tout ça parce que l'Église est vraiment pas là. Donc, le prophète juif, dans le fond, parce qu'il vient de la terre, donc il est juif, l'Antéchrist vient de la mer. C'est les deux bêtes sont différentes. Sont tous les deux jetés dans les temps de feu. Et puis, pendant les 1000 premières années, si vous voulez, ou pendant les milléniums, les deux vont rester seuls dans cet étang de feu. À la fin du millénium, ben, tous les non-croyants vont être jetés dedans aussi. Ensuite, on a ce qui se passe avec Satan, qui est le contrefait de Dieu le Père. Et on vient de voir les deux autres membres. Ici, c'est celui qui essaie d'imiter le Père. Lui, il va être dans l'abîme pour 1000 ans. Et on voit ça en Apocalypse 20, versets 1 à 3. « Puis je vis descendre du ciel un ange. » Et remarquez bien, c'est n'importe quel ange. C'est pas Michel, c'est pas un ange fort, c'est un ange quelconque qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, c'est Satan, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, OK? Et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisait plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié, on va voir ça, à la toute fin du millénium, pour un peu de temps. Donc, c'est un ange commun. Même si Satan était un chérubin protecteur, comme on a vu, comme on peut voir en Ézéchiel. Mais Satan va être emprisonné pendant le millénium, pendant 1000 ans, et cet emprisonnement va commencer pendant cet intervalle de 75 jours. Donc, on voit pourquoi. C'est pour qu'il soit plus capable de séduire. Personne va pouvoir dire pendant le millénium, « Ah, l'ennemi m'a fait faire, j'ai été tenté par le diable, j'ai été tenté par Satan. » Non, pas possible. Pas possible pendant le millénium. Ça va être leur propre cœur qui vont condamner ceux qui vont pécher. Parce que il va pas avoir d'influence satanique du tout pendant 1000 ans. Et ça, c'est comme un test. C'est un test du cœur de l'homme. Et à la toute fin, Satan va être libéré. Comme on voit, il va délier pour un peu de temps et on va voir combien vont échouer à ce test final. Et qui vont encore suivre Satan, même s'ils auront été sous le règne de Jésus direct lui-même sur la planète pendant 1000 ans. Ensuite, on arrive au jugement des non-juifs, des gentils. Et puis, ça, c'est quelque chose, personne m'avait enseigné ça au séminaire. Ça peut vous surprendre. Il faut garder en tête que la majorité de la planète va mourir. La majorité des gens sur la planète, parce que 75% de la planète va brûler. Donc, imaginez le nombre qui vont mourir. Mais on a vu la dernière fois qu'un des objectifs de la tribulation, c'était d'amener un grand réveil. Et puis, donc, il va y avoir beaucoup de croyants aussi. Il va y avoir des non-juifs croyants et non-croyants. Et bon, il va y avoir des survivants parmi les Juifs. C'est le tiers. On a vu ça, qu'ils vont être tous sauvés. Israël va, le tiers d'Israël va tout être sauvé, comme on voit plus tard en Romains 11. Mais parmi les non-Juifs, c'est ce qu'on appelle les nations. Parce que c'est le nom que la Bible utilise. En Joël, ici, vous voyez les deux groupes. Il y a les Juifs, il y a les non-Juifs. Donc, verset 1 de Joël 3. « Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. » On va voir, c'est les croyants. Sont tous croyants. On va voir ça un peu plus tard ce matin. Et ensuite, c'est les non-Juifs. « Je rassemblerai toutes les nations. » Ça veut dire tous les non-Juifs. Et je les ferai descendre dans la vallée où de Josaphat. Ça, c'est c'est la vallée Cédron qui est entre le mont des Oliviers et Jérusalem. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple. Donc, quel est le point de jugement? C'est comment ils ont traité Israël, mon héritage. Et il y a trois jugements, j'ai juste listé deux, qu'elles ont dispersé parmi les nations, premier, et au sujet de mon pays, deuxième jugement, qu'elles se sont partagées. Donc, tous les gentils seront jugés en fonction de la manière dont ils auront traité les Juifs pendant la grande tribulation. Je répète, peut-être c'est la toute première fois que vous entendez ça. Il va y avoir un jugement après la tribulation, avant le millénium, où tous les gentils, les non-juifs, vont être jugés en fonction de la manière dont ils auront traité les juifs pendant la grande tribulation. OK? On a beaucoup plus par rapport à ce jugement dans Matthieu 25. Vous avez déjà lu là-dessus. C'est un très long passage. C'est entre le verset 31 et 46. Et on voit, je vais pas tout lire pour vous, mais pendant ce passage-là, les gentils sont divisés en deux groupes. Il y a les gens qui sont pro-sémites, qui sont pour les Juifs, que la Bible appelle des brebis, et les antisémites qui sont les boucs. Et puis, il va mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, on va tout de suite voir les versets 34 à 40 de Matthieu 25, qui porte sur les brebis. Et les brebis sont pro-sémites, donc vous pouvez tourner dans vos bibles ou écouter, je vais vous lire. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité. » J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et les justes lui répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, nous t'avons recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Et quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra. Et ça, c'est un verset, malheureusement, qui est mal cité assez souvent par toutes sortes d'œuvres de charité. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Gilles, ce matin, a parlé des frères de Jésus, des frères de sang. C'est précisément ça. Je savais pas qu'il allait parler de ça. C'est les Juifs. C'est à moi que vous les avez fait. Donc, ce jugement, c'est une image de comment les non-juifs vont traiter les juifs persécutés, comme j'ai vu, comme on a vu il y a deux semaines pendant la tribulation. Il va y avoir énormément d'antisémitisme. La façon que les gens traitent les juifs, ils vont être jugés. Et tu dis, hey, un instant, Jackie, moi j'ai appris à EGV et il y a longtemps, peut-être avant ça. Qu'on est sauvé par la foi, c'est pas par nos œuvres. Ben, bingo, vous avez raison, c'est tout à fait vrai. Mais est-ce que notre foi se traduit en action? Oui. Et puis, on va voir que, oui, certainement, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais la vraie foi se traduit par nos œuvres. Les brebis ou les gentils croyants vont même aider à participer à la destruction de Babylone en Irak, on voit ça en Ésaïe 13. Ils vont survivre jusqu'à le 1335e jour. Et c'est eux qui vont peupler les nations non-juives du royaume messianique. Par rapport aux non-juifs antisémites, les boucs, voici ce qui est écrit, je continue à vous lire en versets 41 à 45. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. » C'est aux enfers qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, vous m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, etc., etc. Ils vont aller directement aux enfers avant d'être jugés au grand trône blanc à la fin du millénium. Donc, le jugement des gentils déterminera qui va pouvoir entrer au royaume messianique et qui est pas sauvé. Donc, seuls les non-juifs croyants, parce qu'il va y avoir uniquement des croyants. Le premier jour du millénium, tout le monde est croyant. Et les actions pro-sémites en faveur des juifs vont être une démonstration de leur foi interne. D'accord? Ensuite, on arrive à la résurrection des saints de l'Ancien Testament. L'Église est enlevée peut-être aujourd'hui, je l'espère. Mais qu'est-ce qui arrive avec Adam et Ève et tous les croyants de l'Ancien Testament? Et on peut même inclure Jean le Baptiste là-dedans, parce que c'est celui avant l'Église. Donc, c'est la résurrection des saints avant l'Église. Bon, il faut qu'il soit ressuscité. Jean a dit qu'il allait participer aux noces de l'agneau. Il est pas, il fait pas partie de la mariée. Nous, l'Église, on l'est. Mais lui, il va faire partie de ces noces, cette réception énorme qui va commencer le millénium. Donc, il va falloir ressusciter tous les saints avant l'Église et aussi les saints après l'enlèvement, parce qu'il va y avoir des gens qui vont croire après, évidemment. On les a vus la dernière fois en Apocalypse 7. On pouvait pas les dénombrer. Donc, les martyrs de la tribulation. Il va falloir enlever tout ce monde-là pour commencer le royaume messianique, parce que tout le monde va aimer participer à cette période de 1000 ans. Ensuite, il y a la rénovation de la terre, et ça, c'est la dernière chose qui doit arriver pendant l'intervalle de 75 jours. Comme j'ai dit tout à l'heure, 75% va être brûlé. On va voir des versets tout à l'heure. Non, pas tout de suite pour les versets. On va voir les versets qui vont parler de cette nouvelle terre tout à l'heure. Mais il va falloir rénover la planète pour préparer ce règne de Jésus. Et ça, qu'est-ce qui va se passer avec les croyants qui sont en vie, les 144 000 juifs, les juifs qui sont venus, qui sont devenus croyants, les autres martyrs pendant la tribulation ou après l'enlèvement? Où est-ce que Dieu va les placer pendant qu'il remodèle la planète? Ben, je ne sais pas. Pas besoin de savoir. Donc, ce sont les événements principaux de l'intervalle, et n'oublions pas que le tribunal de Christ, c'est ce qui arrive au ciel, hein? Donc, c'est ce qui va arriver pendant la tribulation. On n'en a pas parlé parce que ça fait pas partie de la 70e semaine de Daniel. Donc, et le début, comme j'ai dit, du millénium, c'est les noces, c'est la réception. Donc, la cérémonie, c'est au ciel. Et avant la cérémonie, tout le monde doit prendre un bain. Donc, pour être nettoyé, il y a le tribunal de Christ, notre jugement en tant que croyant. Ça, c'est tout au ciel. Ça, c'est des sujets pour une autre fois. Donc, on arrive au millénium et on voit la base du royaume messianique. Il y en a qui disent que, on sait que le millénium existe juste à cause de l'Apocalypse 20. Pas du tout, comme je vous dis. Moi, je croyais au royaume messianique quand j'étais petite fille. C'est pas du tout la base, et parce que il y a tellement de versets dans l'Ancien Testament qui parlent du royaume messianique que ça prendrait des semaines entières pour que je vous les révèle. Si vous avez suivi la série avec moi dans les petits prophètes ou Ésaïe, vous aurez vu beaucoup. Si ça vous intéresse, fais-moi signe. Mais l'Apocalypse est un livre qui contient des symboles, oui, mais les années sont toujours littérales, je répète. Même si l'Apocalypse est un livre symbolique, les années sont toujours littérales. Pas besoin de les spiritualiser. Quand ça dit 1000 ans en Apocalypse 20, c'est utilisé 6 fois, c'est pour souligner l'idée. Donc, la première base pour le royaume messianique, c'est les alliances juives. Et on a un diapo là-dessus, parce qu'on a l'alliance abrahamique dans, je sais pas combien de passages, peut-être une quarantaine dans la Bible. Je vous amène un de ces passages-là, où on parle de cette semence éternelle qui développe dans une nation qui va posséder toute la terre promise qu'on n'a jamais occupée. Donc, regardons Genèse 13, versets 14 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord et le midi, ça veut dire le sud, et vers l'orient et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » Et à ta semence pour toujours. Et je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence sera aussi comptée. Donc ça, c'est un des passages nombreux de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Ensuite, il y a une alliance pour la terre, et ça, c'est en Deutéronome 29 et 30, et on parle de dans cette alliance. J'espère que vous avez déjà étudié assez les alliances pour que je parle pas à des gens qui ont jamais entendu parler, mais encore là, il y a des outils pour vous. Dans ces chapitres, des deux chapitres de Deutéronome 29 et 30, on parle d'un rassemblement mondial des Juifs après avoir été dispersés mondialement. Donc ça, c'est pas Babylone, c'est maintenant. Je suis à Montréal maintenant. Donc, il va y avoir un rassemblement, pas moi, parce que moi, je parle peut-être ce matin dans l'enlèvement avec vous. Et puis, aussi, il y a une alliance avec David. Et puis, on parle d'une dynastie éternelle et un trône et un royaume et une semence. Quand est-ce que Christ a régné sur le royaume à partir du trône de David à Jérusalem? Mais jamais. Donc, il faut que ça arrive dans le futur. Par rapport à l'alliance avec Abraham que j'ai mentionné tantôt, quand est-ce qu'il y a toute cette terre-là? Il l'a pas eu. Il est mort avec quelques puits puis une caverne pour enterrer sa femme. Donc il va pas croire qu'il ressuscite pour recevoir toute cette terre-là. Et la nouvelle alliance qu'on va voir tout à l'heure en plus de détails, qui parle du salut de tous les Juifs d'ailleurs, et aussi ça comprend la terre aussi. La deuxième base du royaume messianique, c'est les prophéties de l'Ancien Testament. Et comme j'ai dit, il y en a plein là, autant que tu sais, jamais un message pourrait comprendre tout ça. Les seules choses qui n'ont pas été élaborées et que j'ai jamais entendu parler là, petite fille ou à la synagogue, c'est la durée de ce royaume messianique. Mais ça, on le sait à cause de l'Apocalypse 20. Et aussi en Apocalypse 20, on voit les circonstances par lesquelles ça va prendre fin. Donc, on voit à la diapositive suivante, on voit verset 7 à 10 exactement comment les 1000 ans vont terminer. Donc, même si on n'a pas encore regardé les détails, on va regarder la fin. Donc, ça dit, « Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et c'est l'abîme, on l'a vu, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. » Donc, eux aussi sont nombreux. « Ils montèrent sur la largeur de la terre et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. » Évidemment, ça c'est Jérusalem. Et qu'est-ce qui arrive? Tu sais, le long combat, la longue bataille, ben non, c'est vite, 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 un souffle. « Et le feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora. » Point final. C'est tout, ça finit là. « Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Donc là, les trois sont ensemble. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça, c'est leur état éternel. Donc, ça, c'est la façon que le millénium va prendre fin. Ensuite, nous allons regarder, et ça, c'est beaucoup plus agréable, même si c'est toujours agréable de voir la fin de l'injustice et du malin, on va voir les traits de caractère du royaume messianique. Je vais vous nommer beaucoup de passages, je vais mettre juste certains à l'écran. Si vous voulez regarder en psaume 15, versets 1 à 5, vous allez voir la justice qui va caractériser la majorité des gens dans le royaume. Mais nous allons regarder le psaume 24, versets 1 à 6 à l'écran ensemble, et ça va nous donner une idée. Ça dit « À l'Éternel et la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent, car lui l'a fondé sur les mers et l'a établi sur les fleuves. Qui est-ce qui montera à la montagne de l'Éternel? » Ça, c'est Jérusalem. Ça, c'est la montagne de Jérusalem et au royaume messianique. « Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? » Parce que Jésus va être là, ça va être saint, il va régner. Celui qui va pouvoir aller là, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, et qui n'élève pas son âme à la vanité et ne jure pas avec fausseté, des mots pour nous, et recevra bénédiction de l'Éternel et justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherche ta face, ô Jacob. Donc, on voit l'établissement du royaume et cette justice qui va caractériser un homme qui est et une femme qui est en règle avec Dieu. En Ésaïe 2, 2 à 4, on voit une paix universelle. Et ça, c'est quelque chose, on a tous soif. Verset 2, ça dit, dans la prochaine diapo, « Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel, on l'a déjà vu, sera établie sur le sommet des montagnes. Jérusalem, ça va être la montagne la plus haute sur la planète, et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations, c'est les non-juifs, y afflueront. Et beaucoup de peuples iront et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira, ça c'est Jérusalem, sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Ça c'est un parallélisme hébraïque, les deux parties du verset. Et il jugera au milieu des nations et prononcera le droit à beaucoup de peuples, et de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des serpes. Une nation n'élèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Ça, c'est un verset, ou malheureusement juste une partie du verset qui est écrit aux Nations Unies à New York, mais il parle pas du millénium. Il coupe le verset pour ne pas montrer, dans le fond, que ça va être pendant le royaume messianique. On voit aussi en Ésaïe 11 qu'il va avoir une paix universelle. Donc, on voit une paix dans le royaume animal, dans le monde animal. Ça, c'est Ésaïe 11, verset 6. Et on commence à verset 6. Le loup habitera, pas l'agneau, le loup habitera avec l'agneau. Ça, c'est la proie habituelle du loup, c'est l'agneau. Et le léopard couchera avec le chevreau. Et le veau et le jeune lion. Et la bête grasse seront assemblées et un petit enfant les conduira. Wow! La vache paîtra avec l'ours. Leurs petits coucheront l'un près de l'autre. Et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Ça, là, je peux pas imaginer. Donc, les animaux vont manger ensemble au lieu de se manger les uns les autres. Ensuite, dans le verset 8, on voit comment il y a de la paix entre l'homme ou les hommes et les femmes. Quand je dis l'homme, je parle de l'humanité et les animaux. Verset 8, le nourrisson s'ébattra sur le trou de l'aspic et l'enfant se sevrer étendra sa main sur l'antre de la vipère. Wow! C'est pas quelque chose que vous laisserez votre enfant faire aujourd'hui. Et on va voir de la connaissance de Dieu qui est dans la planète entière, verset 9. On ne fera pas de tort, on ne détruira pas dans toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Wow! Pour le prochain passage, je vous invite à tourner et à garder un doigt là-dedans, parce qu'on va retourner à ce passage après avoir fait un détour ailleurs. Donc, tournez avec moi en Ésaïe 65. Il y a beaucoup de versets. Donc, je vous invite d'y tourner. Ça va pas être à l'écran. On voit les nouveaux cieux et nouvelles terres pour la première fois ici. Verset 17 de Ésaïe 65. Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se souviendra plus de ceux qui ont précédé. Et ils ne monteront pas au cœur. Donc, il y a des choses qui sont retenues. On a une géographie de base d'Israël parce qu'on voit, on parle de Jérusalem. Et on voit Jérusalem, justement, au verset 18 et 19 de Ésaïe 65. « Mais réjouissez-vous et égayez-vous à toujours de ce que je crée. Car voici, je crée Jérusalem. » Pour être une jubilation et son peuple, ça veut dire les Juifs, une joie. Et je me m'égayerai sur Jérusalem et je me réjouirai à mon peuple. Tu vois, les Juifs sont pas du tout égarés. Ils les appellent son peuple. Et on n'y entendra plus la voix des pleurs et la voix des cris. Ah, qu'on a hâte à ça. Sauter au verset 20, où on va voir ceux qui vont mourir, c'est juste les non-croyants non-juifs. Ça, là, peut-être c'est une autre idée nouvelle pour vous. Regardez avec moi, c'est pour ça que je voulais que vous tourniez, parce que c'est dur à croire au départ. Verset 20 de Ésaïe 65. « Il n'y aura plus dès lors ni petit enfant de peu de jours. ni vieillard qui n'ait pas accompli ses jours. Donc, il va pas avoir de la mortalité infantile. Il va pas avoir des bébés qui meurent. Ça va pas arriver. Car le jeune homme mourra âgé de 100 ans. Le jeune homme de 100 ans. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Wow! Donc, les non-juifs vont avoir jusqu'à 100 ans pour croire, parce qu'il va y avoir des non-juifs qui entrent au millénium, qui vont avoir des enfants, parce que ceux qui entrent sont croyants, tu peux jamais perdre ton salut, mais leurs enfants, ils vont en avoir qui vont pas croire, et ils vont avoir jusqu'à 100 ans pour croire. S'ils ne croient pas, ils vont être maudits. Ils vont être enlevés, ils vont mourir pendant le millénium. Mais il va pas avoir, et gardez votre doigt en Ésaïe 65, on y retourne tantôt. Regardez dans le prophète qui suit, on n'est pas loin, Jérémie 31. Jérémie 31, verset 31 à 37, et sur un diapositive, tournez avec moi. Verset 31 de Jérémie 31, c'est facile à se rappeler, 31-31. C'est la Nouvelle Alliance. Et je vous élargis le passage un peu. C'est pas juste sur le millénium, mais vraiment sur la Nouvelle Alliance. Voici des jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, ça c'est les deux, Israël dans le nord, Juda dans le sud, une nouvelle alliance, pose cette question à des Juifs, c'est quand? Non selon l'alliance que je fis avec leur père, ça veut dire avec Moïse, au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, ça c'est encore là l'alliance mosaïque, quoique je les eusse épousés, dit l'Éternel, car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël, et après ces jours-là, dit l'Éternel. Donc la nouvelle alliance est une alliance juive, les non-juifs croyants participent à cette alliance, plus tard dans le Nouveau Testament surtout, mais il y en a eu avant. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et j'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple et ils n'enseigneront plus chacun à son prochain et chacun à son frère disant connaissez l'Éternel. Pas besoin d'évangéliser parmi les Juifs dans le millénium car ils me connaîtront tous depuis le petit d'entre eux jusqu'au grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, tous les Juifs qui entrent au royaume messianique, évidemment, ils restent croyants parce que tu perds pas ton salut et tous leurs enfants vont finir par croire aussi. Verset 35, et on voit comment c'est coulé dans le ciment, cette promesse. Ainsi dit l'Éternel qui donne le soleil pour la lumière du jour, les ordonnances de la lune et les étoiles pour la lumière de la nuit. Bon, est-ce que tu peux enlever le soleil, la lune, les étoiles? L'Éternel des armées est son nom. Si jamais, verset 36, ces ordonnances s'en vont de devant moi, dit l'Éternel. Donc, si tu peux enlever la lumière du jour, le soleil, si tu peux enlever la lune et chacune des étoiles, là, la semence d'Israël cessera aussi d'être une nation devant moi pour toujours. Donc, si l'Iran a une arme contre Israël, il faut la pointer plutôt vers le soleil, ensuite la lune, ensuite chacune des étoiles et aussi, il y a d'autres choses, verset 37, si on mesure les cieux en haut, et qu'on sonde les fondements de la terre en bas, alors, il faut faire tout ça avant d'enlever Israël comme une nation, tous les Juifs, évidemment, qui vont finir par croire, alors que moi, je rejetterai toute la race d'Israël. Israël, c'est une race. Les Juifs, c'est une race, c'est pas une religion. À cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel, parce que les Juifs ont fait pas mal de mauvaises choses, et encore aujourd'hui, donc, est-ce que c'est à cause de nos œuvres que nous sommes sauvés ou condamnés? Non, c'est la foi. Donc, ça, c'est vraiment encourageant. Ça, c'est des beaux versets pour la Nouvelle Alliance. Et on voit, donc, retournez maintenant où vous avez gardé le doigt en Ésaïe 65. On va retourner là pour voir une paix personnelle et une prospérité. Et on va finir bientôt. Donc, verset 21. Et ils bâtiront des maisons et les habiteront. et ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre habite. Est-ce que vous faites des maisons pour que chez vous là, pour que quelqu'un habite là? Non. Ça va être vous qui allez vivre dans votre maison. Ils ne planteront pas pour qu'un autre mange, car les jours de mon peuple seront comme les jours d'un arbre, et mes élus useront eux-mêmes l'ouvrage de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ni n'engendreront pour la frayeur, car ils sont la semence des bénis de l'Éternel et leur postérité avec eux. Et il arrivera avant qu'ils crient, je répondrai, et quand ils vont parler, je vais exaucer. Donc, on voit qu'ils vont construire, ils vont planter, ils vont profiter de tout ça, ils vont vivre longtemps, il va pas avoir de la calamité, et Dieu va répondre tout de suite à leur prière. Donc, ça, c'est spécial. Et on voit encore la paix dans le royaume animal au verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Dieu va devoir changer leurs dents, je pense. Et la poussière sera la nourriture du serpent. Donc, les serpents vont pas manger des animaux. On ne fera pas de tort et on ne détruira pas sur toute ma montagne sainte. Wow. Et je termine avec un passage en Michée qu'on met à l'écran où on parle d'une paix universelle et une paix personnelle. Et on va voir que Israël va avoir le cœur tout à Dieu. Et il arrivera, ça c'est Michée 4, je vous ai sauvé d'essayer de trouver Michée, que des fois on trouve par la foi, si on ne connaît pas nos petits prophètes. Faut pas arriver au ciel et dire, Michée, je pense que tu as écrit un livre, mais je sais pas où il est, qu'est-ce que ça dit? C'est important de lire les petits prophètes. Mais comme j'ai dit, il y a des enseignements qui vous aident à comprendre tout ça. Chapitre 4, verset 1 à 5 de Michée. Essayez d'imaginer ça. Si vous voulez le lire, lisez. Sinon, juste fermez les yeux. Là, c'est un beau passage et on termine avec ça. Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines et les peuples y afflueront. Et beaucoup de nations iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel et à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous instruira de ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il jugera au milieu de beaucoup de peuples et se prononcera le droit à de fortes nations jusqu'au loin. Et de leurs épées, ils forgeront des socs. Je vous ai lu ça tantôt, hein, mais c'est juste pour souligner. Et de leurs lances, des serpes, et une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation. Et on n'apprendra plus la guerre. Et ils s'assieront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne qui les effraie. Wow. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Car tous les peuples marcheront chacun au nom de son Dieu. Du seul Dieu, et nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Donc, quel beau moment qu'on va vivre ensemble. Peut-être vous avez hâte au ciel, moi j'ai hâte au millénium. Oui, il va y avoir un peu de tentation que Satan va réussir. Le péché va pas être éliminé complètement, va être beaucoup réduit. Sans Satan, mais le cœur des gens va continuer à être ce qu'il est aujourd'hui. Et il va avoir une révolte à la toute fin. On va voir tout ça parce qu'on va être dans nos corps glorifiés. Donc, ayons hâte à ce moment-là et remercions Dieu de pouvoir le vivre. Et si vous voulez en apprendre plus, branchez-vous à 19h mercredi. Merci.
Un, deux, deux. Merci beaucoup, Jackie. Donc, on est avec toi pour le 18, ce mercredi, et le 20. Après ça, c'est quand pour le mois de décembre? Le 16, hein?
S'il y a des questions, semaine. Référez-vous au livre, hein? Parce que c'était juste assez pour mettre, vous donner un petit goût, un petit aperçu de ce qu'il y a quand on parle de l'intervalle et du royaume messianique. Si vous avez des questions, peut-être on va répondre à la toute fin de la session mercredi.
Ouvre mon micro, Juliane, sur l'ordi 2 pour qu'elle m'entende. Est-ce que tu m'entends, Jackie? 1-2, Jackie, est-ce que tu m'entends?
Maintenant, je t'entends.
OK, super ça. Donc, mercredi, comment ça va se passer? On va avoir 10 minutes de louange au début, mais on va commencer tout de suite avec l'enseignement de Jackie vers 7h10. Puis à 8h55, on va avoir une période de questions où on va pouvoir poser des questions sur ce qu'on a entendu ce matin. Et si je ne m'abuse, j'ai bien compris que les deux prochains enseignements seraient sur le millénium, Jackie. Est-ce que c'est bien ça?
C'est bien ça.